RFI, 9h30 à Paris et Kinshasa, 8h30 temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
À la une, ces deux explosions à Bukavu, hier dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles ont tué 11 personnes au moins et fait une soixantaine de blessés parmi une foule qui s'était réunie pour assister à un meeting de l'AFC M23. Les responsables du groupe soutenu par le Rwanda, présents à l'événement, sont partis quelques minutes avant les détonations. Ibrahima Kassori Fofana, condamné à 5 ans de prison ferme hier en Guinée. L'ancien premier ministre d'Alpha Condé a été reconnu coupable de détournement de fonds, enrichissement illicite et corruption. À ses avocats comptent faire appel. Une rencontre à trois entre le gouvernement sénégalais, les syndicats et le patronat pour tenter de renouer le dialogue social. Et puis c'est une première en un quart de siècle au Maroc. Le roi Mohamed VI a demandé à la population de ne pas sacrifier le mouton lors de l'Aïd el-Kébir. Deux explosions meurtrières quelques minutes après un meeting de l'AFC M23 à Bukavu dans l'est de la RDC. Au moins 11 personnes sont mortes, une soixantaine a été blessée selon les sources médicales. Le récit de Paul Lorgerie.
Manches retroussées, des traces de sang sur les mains visibles jusqu'au col de sa chemise blanche. Albert est l'un des jeunes qui a secouru les victimes des explosions.
J'ai entendu deux explosions. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une trentaine de personnes grièvement blessées. Certains avaient les jambes cassées, d'autres des blessures à la tête. J'ai aidé à porter les corps sans vie pour les acheminer à la morgue et les blesser à l'hôpital. J'ai compté au moins 10 morts.
La première explosion s'est produite à environ 6 mètres de la tribune où se tenait Corneille Nanga, qui venait de quitter les lieux 3 minutes auparavant. Ce n'est que 30 secondes plus tard qu'une deuxième détonation a retenti. Présent sur les lieux, Nicolas l'a échappé belle lors de la débandade. Alors qu'il prenait la fuite, lui aussi aurait pu compter parmi les victimes.
J'ai vu une grenade parce que nous étions en train de fuir. Nous étions sécurisés par le militaire de l'AFM 23 qui nous a sécurisés. Quand nous étions en train d'aller vers Feu Rouge, on a vu, et d'ailleurs ce n'est pas nous, ce sont les militaires qui ont vu ça dans le caniveau. Une troisième qui n'a pas explosé. Ils ont commencé à déminer et puis nous ont dit de partir.
Selon l'AFC M23, deux suspects ont été appréhendés. Sans donner de bilan, les responsables condamnent l'attaque du meeting et accusent Kinshasa. Abamungu, qui a été blessé au pied gauche, tente de comprendre qui pourrait être derrière tout cela.
Je pense que c'est une jalousie politique, parce que les meetings étaient déjà vers sa fin et il y en a certaines personnes qui ne croyaient pas que la masse pourrait être là.
Depuis mercredi, des messages circulaient sur les réseaux sociaux appelant les gens à ne pas participer au meeting.
Paul Lorgerie, un ancien premier ministre d'Alpha Condé, condamné à 5 ans de prison ferme en Guinée. Ibrahima Kassori Fofana a été reconnu coupable hier de détournement de fonds, enrichissement illicite et corruption par une cour spéciale mise en place par la junte. Le chef du gouvernement de mai 2018 à septembre 2021, date du coup d'état militaire, est déjà incarcéré depuis avril 2022. Sa défense veut maintenant faire appel à Mouktarba.
Après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Ibrahima Kassori Fofana coupable des délits de détournement de délit public, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux.
Le tribunal dirigé par Lansana Souma a suivi les réquisitions du parquet. 5 ans de prison ferme et près de 20 milliards de francs guinéens, plus de 2 millions d'euros d'amende. Une décision que le procureur de la CRIEF a appréciée. Ali Touré.
Nous estimons que la poursuite que nous avons engagée est bien fondée. Les éléments constitutifs ont été bien développés et ça a été repris par la cour et ça a été vraiment un motif de satisfaction. Et la satisfaction c'est aussi un message qu'on envoie aux dirigeants pour ne pas faire des biens publics ce qu'ils veulent. Et là c'est pour dire que la gestion de la chose publique doit être moralisée.
La défense de l'ancien premier ministre dénonce un déni de justice et une justice aux ordres. Maître Sidiki Bereté.
Ça c'est une décision politique. Kassori ne se reproche de rien. Si c'est franchement la transition c'est regrettable. On va exercer nos recours. On fera appel. Non, la décision-là ne nous fait ni chaud ni froid. Les Guinéens ne méritent pas d'une telle violence de la justice. On se sert de la justice pour humilier les citoyens.
Kassori Fofana est l'un des nombreux anciens dirigeants et responsables politiques et de la société civile incarcérés ou inquiétés pour des malversations économiques ou des délits d'opinion sous le régime militaire. Mouktarba Conakry, RFI.
Le gouvernement sénégalais à la recherche du remède pour apaiser un climat social qui se dégrade depuis le début de l'année. Les secteurs universitaires ou de la santé sont traversés par des grèves. La menace d'une grève générale a même pesé à un moment. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a donc organisé hier à Dakar une rencontre entre le gouvernement, les syndicats et le patronat pour tenter de relancer le dialogue. Gwendal Lavina.
Pendant 3 heures, syndicalistes, patrons et ministres se succèdent à la tribunes pour établir le diagnostic de la crise que traverse le Sénégal et formuler leurs demandes. Après avoir écouté tout le monde, le Premier ministre Ousmane Sonko prend la parole.
Il faut qu'on s'entende sur un consensus. Parce qu'aucun pays n'a décollé sans consensus fort. Et c'est pourquoi j'avais tenu à ce format. Tout le système social, la protection des travailleurs, le nouveau code du travail, la justice et l'équité dans les systèmes de rémunération. On va y travailler ensemble. Mais c'est un construit. Ça ne tombe pas du ciel. Et ça, nous voulons le faire en toute transparence.
À la sortie, la satisfaction d'Eliman Diouf, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes.
C'est quand même plus rassurant que ce qu'on avait entendu dans la déclaration au niveau de l'Assemblée et dans les autres déclarations. Il y a une ouverture, une volonté de faire un discours de vérité. Et nous, centrale syndicale, notre credo, c'est de dialoguer et de trouver des solutions.
Côté patronat, Pierre Goudia Biatepa, président du club des investisseurs sénégalais, apprécie la transparence des autorités.
Ils ont été mis là pour nettoyer les écuries. Ce gouvernement a eu le courage d'expliquer que les choses vont être dures, très dures, mais l'espoir est devant et c'est ça qui est important.
Les discussions vont se poursuivre avec pour objectif de parvenir prochainement à un nouveau pacte de stabilité sociale. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Les groupes armés d'Afrique de l'Ouest garnissent depuis peu leur rang avec de tout nouveaux combattants, ou plutôt des combattantes. Selon plusieurs chercheurs, les femmes s'engagent en effet de plus en plus, notamment dans les pays côtiers. Des conclusions présentées lors d'un séminaire organisé ces trois derniers jours par l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville, Binta Diagne.
Selon plusieurs spécialistes, les femmes qui coopèrent avec les groupes extrémistes violents habitent dans des zones frontalières. Il y a d'abord des femmes contraintes d'adhérer à ces mouvements et d'autres qui sont guidées par l'opportunisme économique, comme l'a constaté le docteur Abdelaziz Mossi, enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Ce chercheur a travaillé sur ce phénomène dans le nord du Bénin et du Togo.
Beaucoup de femmes rejoignent ces groupes non pas parce qu'elles y sont forcées, mais parce qu'elles y trouvent des intérêts pécuniaires, personnels. Ces groupes extrémistes violents constituent donc des occasions pour certaines femmes pour faire beaucoup de business dans les activités commerciales illicites, comme la vente de carburant, comme la fourniture de vivres, comme la fourniture des moyens de déplacement aussi pour ces groupes-là, comme agents de renseignement pour ces groupes.
Aucun chiffre n'est disponible pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, mais selon ce spécialiste, les profils sont larges, toutes les tranches d'âge sont concernées, il y a des femmes instruites, mais aussi des femmes analphabètes. Docteur Anna Mensa, maître de conférence à l'Institut Kofi Annan à Accra.
Dans la société, nous devons chercher à pouvoir élever les opportunités que nous donnons aux femmes à partir de l'éducation.
Il y a enfin peu d'études sur le traitement pénal des femmes djihadistes ou encore sur le suivi psychologique de ces femmes après leur reddition. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Une fête de l'Aïd el-Kébir inédite sous le règne de Mohamed VI au Maroc. Pour la première fois en 25 ans au pouvoir, le roi a appelé à ne pas sacrifier le mouton, tradition lors de cette célébration de début juin. Le cheptel des ovins au Maroc a en effet chuté de 38% par rapport à 2016 selon le ministre marocain de l'Agriculture. Leur prix est aussi très élevé. Des motifs d'inquiétude causés par la sécheresse qui dure dans le pays, même si d'autres facteurs ont aussi aggravé la pénurie, Claire Fage.
Les ovins et les caprins sont les animaux d'élevage les plus dépendants des pâturages. Or, cette source d'alimentation a été fortement réduite au Maroc ces dernières années, explique Abdelila Araba, professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.
Cette réduction est le résultat déjà de la pluviométrie, mais aussi de l'extension de l'agriculture, l'oléiculture ou autre. Et donc, on a un petit peu grignoter sur les superficies pastorales.
Le nombre de petits ruminants a donc chuté, alors que dans le même temps, la consommation de viande augmentait avec la population marocaine et le nombre de touristes. L'annonce du roi vise à épargner le portefeuille des Marocains les plus modestes et à permettre au cheptel de se reconstituer. Des solutions de plus long terme devront aussi être mises en œuvre, estime Abdelila Araba.
Là où il pleut, la partie nord, peut-être qu'on peut encourager les productions fourragères pour alimenter le reste du pays. Là où il y a peu d'eau, en optant pour des fourrages plus résistants qui demandent moins d'eau.
En attendant, le Maroc a signé un protocole d'accord avec l'Australie pour importer 100 000 têtes de moutons vivants avant mai prochain.
Une précision de Claire Fage. C'est la fin de cette dernière édition d'Afrique Matin. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information internationale dans 30 minutes. Mais tout de suite, c'est Juan Gomez avec Appel sur l'actualité.